Journal de la mi-journée.
Bonjour. Le Pacifique en état d'alerte après le puissant séisme qui s'est produit tout à l'est de la Russie. Des régions entières sont évacuées au Japon, à Hawaï, en Équateur ou en Colombie. Nous sommes au Japon et en Russie dans un instant. Ces bateaux font partie de la carte postale du Léman, les bateaux de la CGN, mais une partie de la flotte endommagée est à quai, visite d'un chantier en cours. Ils s'attaquent aux pommiers, aux vignes, aux prairies. Le scarabée japonais inquiète, notamment en Valais. Trop tard pour l'éradiquer, mais il faut limiter son expansion. Reportage. Dans ce journal aussi, la nouvelle campagne de pub du mouvement raélien. On vous explique aussi les excellents chiffres d'UBS. Et puis, reportage au Honduras. Le pays fait les frais de la politique migratoire américaine. Une voix délicate, une musique envoûtante, des textes qui parlent de guerre, de crise écologique et surtout d'amour. Laura Kane publie son troisième album De l'autre côté. Elle est avec nous dans 20 minutes. Météo, du soleil autour du Léman, plus nuageux ailleurs, jusqu'à 23 degrés en plaine. On est ensemble pendant une demi-heure. Bienvenue. Plusieurs pays de l'océan Pacifique sont en état d'alerte après le séisme qui s'est produit cette nuit au large de la Russie. Séisme de magnitude 8,8, le plus important depuis plus de 70 ans. On craint par endroits des vagues de 5 mètres, des zones sont déjà inondées, des régions sont évacuées. Et parmi les régions en alerte, il y a le Japon. Karine Nishimura, vous êtes notre correspondante sur place. Quelle est la situation ?
Voilà désormais plus de 9 heures que le Japon est en alerte avec des ordres d'évacuation valables sur plus d'un millier de kilomètres de côte pacifique allant de l'île septentrionale de Hokkaido jusqu'au sud-ouest à Wakayama. Des tsunamis en plusieurs phases ont déjà été mesurés dans des dizaines de points des côtes nippones avec des hauteurs allant de 10 cm à 1,30 m. Comme l'explique le professeur Fumihiko Imamura de l'université du Tohoku sur la chaîne publique NHK, le pire est peut-être pour plus tard.
Un tsunami ne vient pas directement depuis une seule direction, mais se répercute depuis plusieurs régions et tourne en s'amplifiant, donc cela peut durer toute la journée.
L'Agence nationale de météo japonaise redoute toujours un tsunami d'une hauteur pouvant monter jusqu'à 3 mètres. Même si on n'a pas déploré jusqu'à présent de victimes ni dégâts, c'est une journée angoissante et éprouvante pour des dizaines de millions de Japonais empêchés de rester chez eux ou de travailler avec en outre des transports, commerces et services perturbés ou suspendus. Les autorités rappellent qu'il faut rester extrêmement prudent avec une difficulté supplémentaire pour les personnes réfugiées sur les toits ou en hauteur à l'extérieur, une chaleur extrême qui frôle les 40 degrés à l'ombre par endroit et une très forte humidité, un cocktail parfois mortel. Par ailleurs, le gouvernement met en garde contre les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Karine Nishimura, RTS Tokyo.
Et le séisme s'est produit tout à l'est de la Russie. Il a secoué la péninsule du Kamtchatka, ce qui a provoqué un tsunami et d'importants dégâts matériels. Bonjour Jean-Didier Revoin.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant en Russie. Quelles sont les dernières nouvelles sur place ?
Alors écoutez, les autorités locales n'ont dénombré ni blessés graves ni victimes, mais les dégâts sont importants. Il y a des vidéos sur les réseaux russes tournées dans des appartements qui montrent la violence des secousses qui ont duré pour certaines plusieurs minutes. On y voit les murs des appartements trembler, la vaisselle ou les bibelots s'écraser au sol accompagnés de cris de détresse. Selon le gouverneur de la région du Kamtchatka, les principales pathologies dont souffre une partie de la population sont des crises de panique ou d'arythmie cardiaque. Sur le plan matériel en revanche, les dégâts sont importants. Des témoins oculaires ont rapporté qu'une vague de 3 à 4 mètres avait pénétré sur plusieurs dizaines de mètres à l'intérieur du territoire de la péninsule. Le port de Severokurilsk, sur une île à proximité immédiate du Kamtchatka, a été complètement inondé. Une usine de transformation de poissons a été ravagée. Des bateaux en mouillage ont été arrachés vers le large sous la force du tsunami. Les autorités ayant décrété l'état d'urgence et l'électricité reste coupée jusqu'à la levée de l'alerte tsunami.
Jean-Didier, pas de morts, pas de blessés graves. Comment on l'explique ?
Écoutez, le Kamtchatka est un territoire immense, 6,5 fois la superficie de la Suisse, dans lequel vivent seulement 330 000 personnes. Cela fait une densité de 0,7 habitants au kilomètre carré. Il faut savoir qu'au temps de l'Union soviétique, le Kamtchatka était une région fermée, seuls y vivaient des militaires. La région se caractérise donc par une nature vivifiante, une multitude de volcans qui s'élèvent au-dessus d'elle. Et c'est l'une des zones sismiques les plus actives de la planète, au point de rencontre entre les plaques tectonique du Pacifique et de l'Amérique du Nord. Les habitants sont donc habitués aux tremblements de terre. Ils redoutent maintenant des répliques dont l'ampleur pourrait provoquer un nouveau raz-de-marée.
Jean-Didier Revoy en direct de Moscou. Et toujours dans l'actualité internationale, la conférence de l'ONU sur la Palestine vient de se terminer avec l'appel de New York. C'est une déclaration signée par 15 pays. Elle demande la reconnaissance de l'État palestinien et la mise en place d'une solution à deux États pour mettre fin au conflit. Parmi les signataires, plusieurs pays arabes. Malika Nedir, pour la première fois, il condamne le Hamas et appelle à sa mise à l'écart.
Oui, une déclaration qualifiée d'historique par la France, co-organisatrice de cette conférence avec le Royaume saoudien. L'Arabie saoudite, le Qatar, l'Égypte, la Jordanie figurent parmi les signataires du texte, également soutenus par la Ligue arabe. Ils condamnent l'attaque du Hamas du 7 octobre en Israël, appellent au désarmement du Hamas, à son exclusion de la bande de Gaza. Seule l'autorité palestinienne rénovée devra gouverner et assurer la sécurité des territoires palestiniens.
Et cette prise de distance des pays arabes avec le Hamas n'est pas nouvelle.
Nous, en février déjà, les pays de la région avaient élaboré un plan de reconstruction de la bande de Gaza qui écartait le Hamas de tout rôle politique ou militaire. Même priorité de la France qui planche depuis des semaines avec l'Arabie saoudite sur l'idée d'un désarmement du Hamas, l'exfiltration de ses dirigeants encore en vie hors de la bande de Gaza pour obtenir une reddition pacifique du mouvement islamiste. Condition essentielle à la remise sur pied de l'autorité palestinienne et à un large soutien de la communauté internationale à la solution à deux États. Autre point à retenir de cette conférence, les États arabe ouvre la voie à une normalisation future de leurs relations avec Israël, mais à condition qu'un État palestinien voie le jour aux côtés d'Israël.
Malika Nedir de notre rubrique internationale. UBS annonce ce matin un bénéfice net de près de 2 milliards de francs au deuxième trimestre. C'est deux fois plus que pour la même période de l'an dernier. Loïc Delacour, le groupe profite, comme d'autres grandes banques, de la volatilité des marchés.
Oui, une volatilité des marchés causée principalement par la guerre commerciale menée actuellement par le président américain Donald Trump. Et quand la bourse fait le yo-yo, ce sont des opportunités qui se présentent pour les investisseurs. Résultat, la division banque d'investissement d'UBS se frotte les mains avec des revenus des marchés mondiaux qui ont bondi de 25% sur un trimestre. La banque suisse suit donc le mouvement d'autres grands instituts financiers. Il y a deux semaines, les banques américaines JP Morgan, Goldman Sachs ou encore Morgan Stanley annonçaient toutes des résultats positifs. Hier, c'est l'anglaise Barclays qui voyait son bénéfice s'envoler. Des groupes bancaires qui profitent donc grandement d'un trading d'actions très actif ces derniers mois.
Et Loïc, c'est la seule raison qui explique les bons résultats d'UBS ?
Alors non, si ces résultats sont supérieurs aux attentes, c'est aussi grâce aux revenus de la division gestion de fortune mondiale. Ils ont progressé d'un peu plus de 10%. Et puis, l'intégration de l'ancien rival, Crédit Suisse, avance bien selon UBS. Elle annonce qu'un tiers des comptes clients enregistrés en Suisse ont déjà été rapatriés. Elle entend finaliser le processus d'ici fin mars 2026. Quant aux résultats futurs, la banque se veut prudente. Le moral des investisseurs et des entreprises semble rester positif, avec une volonté de mettre du capital au travail, mais le contexte international est toujours rempli d'incertitudes, que ce soit sur le plan économique ou géopolitique.
Vos précisions, Loïc Delacour. Et direction maintenant le Léman. La CGN va remettre en service un bateau à vapeur dès le mois d'août. Le Montreux devrait naviguer pour la fin de la saison d'été, avec un horaire d'été justement qui sera prolongé de deux semaines jusqu'au 14 septembre. Gaspard Kuhn, vous êtes sur le chantier naval d'Ouchy.
Oui, la CGN nous a ouvert ses portes et on a senti la volonté de transparence après une année difficile marquée par des avaries à répétition sur la flotte Belle Époque. Et la fumée s'échappait déjà de la cheminée du Montreux. Le bateau s'apprête à naviguer. Les courses d'essai auront lieu dès la semaine prochaine. On a aussi pu voir les travaux sur la coque du Savoie, dont la mise en service est attendue cette fois pour le mois d'octobre. La CGN, on le sent, veut tourner la page. Elle communique aussi sur ses chiffres, plutôt bon vu le contexte, avec une très légère hausse des recettes. Le transport de passagers a compensé la baisse d'activité purement touristique.
Mais Gaspard, il y a encore des défis pour la CGN.
Oui, et ils sont nombreux ces défis, à commencer par les ajustements sur les navires express, les nouveaux bateaux de transport passagers qui peinent à naviguer par gros temps. Mais aussi la convention qui lie le canton de Vaud aux agglomérations françaises pour financer les lignes transfrontalières. Elle doit être renégociée avant la fin de l'année, le temps presse. Et enfin, ce qui saute aux yeux quand on est sur ce chantier naval, c'est qu'il manque de la place, un deuxième bassin de radoux pour entretenir hors de l'eau les bateaux Belle Époque, car il y a un véritable bouchon sur les travaux. Ce deuxième bassin de radoux fait partie du plan d'investissement qui doit aussi être négocié avec les cantons actionnaires. Bref, Vous l'aurez compris, l'avenir de la CGN se jouera au niveau politique.
Gaspard Kuhn de notre bureau vaudois. Elles sont de retour dans les gares. À Genève, par exemple, on peut voir les affiches du mouvement raélien, considéré comme une secte, notamment par la France. Une grande soucoupe volante sur fond rose appelle à accueillir les extraterrestres dans une ambassade. Bonjour Anouk Pernet.
Bonjour.
On vous retrouve en direct de Genève. Et l'affiche fait hausser des sourcils.
Oui, par exemple, on les avait déjà vus hein, dans les gares suisses romandes ces dernières années. À côté de cette grande soucoupe volante, un QR code qui amène tout droit au livre de Raël sur, je cite, le message donné par les extraterrestres. Alors, selon les CFF et la société d'affichage, ces publicités sont tout à fait légales. Les gares sont considérées comme des lieux publics. C'est donc la liberté d'expression qui prime, sauf si l'ordre public est violé. Ces sociétés ajoutent que c'est le client qui a la responsabilité de ces affiches qu'on peut voir aujourd'hui à Lausanne et Genève.
Anouk, à Genève, il y a une loi sur la laïcité. Est-ce que c'est compatible ?
Alors, selon le mouvement raélien que nous avons contacté, la laïcité n'a rien à voir avec la liberté d'expression sur la paix ou l'existence des extraterrestres. Interdire ces affiches serait de la censure, selon eux. Du côté des autorités cantonales genevoises, la réponse n'est pas si simple. Est-ce qu'il s'agit de prosélytisme ou d'une simple réclame ? Ce n'est pas uniquement le mouvement raélien qui sème le doute. On voit souvent à Genève ces pancartes bleues qui citent la Bible et déclament l'amour de Dieu. Alors, contacté ce matin, le canton nous dit être fréquemment interpellé sur ces questions et planché actuellement sur les limites que les différentes lois doivent poser à la publicité.
Anouk Pernet, en direct de Genève. Il peut endommager plus de 300 espèces de plantes, les prairies, les arbres forestiers, les pommiers, la vigne ou encore le maïs. Le scarabée japonais prolifère en Suisse depuis son arrivée sur le continent européen par l'Italie il y a 10 ans. Le Valais tente de freiner son expansion comme à Gondo au pied du col du Simplon. Reportage d'Yanalis Ramzauer.
Oh là là, il y a du people.
Il y a du monde.
Il y a du people. Donc là, on voit un piège à phéromones. Et là, à vue d'œil, il y a au moins 1000 scarabées dans le piège. Céline Gilly, je suis responsable du secteur phytosanitaire à l'Office d'arboriculture et culture maraîchère du canton du Valais.
On a la boîte, elle est pleine.
L'année dernière, sur l'entier de la saison, on en a piégé 84 000. On peut dire qu'on a perdu la guerre. En fait, les populations sont déjà trop importantes pour qu'on puisse arriver à l'éradiquer, donc à l'éliminer. L'objectif maintenant, c'est vraiment de l'enrayer, c'est-à-dire de limiter son développement et surtout sa dispersion.
Qu'est-ce qu'on peut faire alors contre ce scarabée ?
La lutte est difficile. Hein. Une des techniques, c'est de faire du piégeage de masse. Ensuite, faire la lutte contre les larves qui se trouvent dans le sol, éventuellement des traitements insecticides contre les adultes. Et puis, pour l'instant, c'est à peu près les seuls moyens de lutte qu'on a. Lui, il fait bien le mort, hein, le deuxième. Ouais. Ce sont des très bons passagers clandestins. Ils s'accrochent facilement aux habits, aux cheveux. Et ça aussi, c'est une problématique parce qu'on ne fait pas forcément attention. Quand, par exemple, on part en vacances en Italie du Nord ou quand on vient ici en randonnée au Simplon, et puis on peut facilement en ramener avec nous.
C'est caché. Tac. Quand on voit comme ça, ça a l'air presque un peu peine perdue.
Oui, il ne faut pas le dire, mais oui, ça va être compliqué.
C'est le reportage de Yanalis Ramzauer. Et un mot de football, c'était dans l'air, c'est maintenant officiel. Granit Xhaka va poursuivre sa carrière en première ligue à Sunderland. Le capitaine de l'équipe de Suisse quitte Leverkusen et retourne en Angleterre après deux saisons passées en Allemagne et la conquête de 3 trophées et une finale d'Europa League. Les deux clubs ont trouvé un accord et le nouveau contrat de Xhaka à Sunderland porte sur 3 saisons. C'est l'heure du repas et on continue notre série sur la gastronomie espagnole. Après l'Estrémadure et la poudre de piment, notre correspondante Valérie Demont descend dans le sud, en Andalousie, à la rencontre des cochons ibériques de la marque Cinco Rotas, élevés en pleine nature, et du fameux Pata Negra.
Fernando José, le berger, appelle des dizaines de cochons noirs habitués à sa voix, à l'ombre de magnifiques chênes lièges et chênes verts, dans la montagne d'Aracena, à plus de 600 mètres d'altitude.
C'est le paradis total pour les cochons. Si tu viens ici dans ce domaine sans voir de cochons, ce serait bizarre. Ça fait vraiment partie du paysage.
33 cochons ibériques reconnaissables à leurs pattes allongées et sabots noirs disposent de 70 hectares, soit deux fois plus de surface que celle prévue par la loi. Ces cochons resteront presque 2 ans à l'air libre avant leur sacrifice.
Nadia, perdona que no me ha dado tiempo a cogerlo.
Maria Bermudez de Castro, biologiste et responsable des relations publiques chez Cinco Jotas, sait tout sur cette espèce autochtone dont le jambon se vend à prix d'or. Prisé partout dans le monde, ces cochons 100% ibériques raffolent des glands qu'ils peuvent manger entre octobre et fin février, durant la période de la montanera.
Il mange 7 kg de glands par jour et 3 kg d'herbe. Comme le cochon est très sibarite, il sélectionne ce qu'il mange. Il cherche toujours le gland le plus doux, le plus grand, et va chercher le chêne vert où il peut les trouver.
Ils sont aussi exigeants que nous quand on mange du jambon.
Totalement, ils sont plus exigeants que nous. Durant la montanera, ils font 14 km par jour, le double de la période sans glands. C'est impressionnant.
Ces glands, c'est un peu le secret des cochons ibériques.
Le cochon 100% ibérique possède une agilité spécifique pour se déplacer entre les pierres et les endroits escarpés. Cela lui donne de la rusticité. Il n'est que muscle parce qu'il n'a pas encore commencé l'époque des glands. Et quand il commence à les manger, ça lui donne de la graisse. C'est riche en acide oléique et en oméga 9.
Direction la ville de Jabugo, à une vingtaine de minutes, qui a donné son nom au fameux jambon des Jabugo. Dans les caves fraîches de la maison Cinco Jotas, nous sommes au royaume du Pata Negra, où des milliers de jambons de 7 à 9 kilos sont accrochés pour leur séchage et affinage entre 14 et 18 degrés à humidité constante. L'expérience visuelle et olfactive est unique. Maria décrit ces jambons de manière presque poétique.
La cagna, c'est la cheville et elle est très fine, comme celle d'une danseuse de ballet. Et si tu regardes le sabot, il est arrondi. Cela indique que l'animal n'a pas cessé de marcher. Il est usé.
Là, je vois qu'il y a des noms sur certains jambons, non ?
Ce sont généralement les noms des entreprises ou restaurants. Ils sont venus l'année passée sélectionner le jambon qu'ils vont consommer l'année suivante.
Ici, les clients viennent faire leur sélection privée, comme Enrique à la tête de plusieurs restaurants venus de Oliva, près de Valence, pour sélectionner une centaine de jambons pour la saison 2026.
On touche la graisse, on vérifie que le sabot n'est pas tordu. C'est comme les Rolex, ils sont forcément de Suisse. Eh bien, les jambons, c'est de Jabugo. Cela rappelle les animaux à l'air libre, les glands, les arbres, ce sont des souvenirs d'enfance.
Pour réduire la confusion des consommateurs, le gouvernement a approuvé 4 étiquettes de couleur pour différencier les produits ibériques suivant leur alimentation et les endroits où ils sont élevés. L'étiquette noire pour les jambons d'excellence. Chez Cinco Jotas, on sélectionne les meilleurs cochons pour obtenir une graisse infiltrée qui fait le bonheur des gastronomes.
Cette graisse doit être très fine, comme une graisse marbrée. C'est si délicat qu'on sent que l'on mange de la viande, mais comme la graisse est là sans qu'on la voie, la tranche de jambon va fondre en bouche.
Le séchage dure presque un an pour ensuite passer à l'affinage entre 2 à 3 ans avant d'être servi à table.
Je m'appelle Marco Alvarez.
On ne peut pas couper le jambon n'importe comment, en fait.
On ne devrait pas couper le jambon n'importe comment, non. C'est un travail assez précis et on va dire qu'il demande pas mal de pratique. Voilà, c'est le couteau jambonnier. C'est un couteau qui est assez long, bon, très flexible, on va dire, qui va nous permettre de couper des tranches super fines.
Le jambon à Noël, c'est typique.
Voilà, c'est comme les foie gras pour vous. C'est une assiette qui est servie normalement en tant qu'apéritif, donc pour partager.
C'était le reportage de Valérie Demont, suite de notre série sur la gastronomie espagnole. Demain, on parlera huile d'olive. Et on traverse maintenant l'Atlantique. Depuis le début de son deuxième mandat, le président américain Donald Trump mène une politique migratoire très agressive. Le 7 juillet, il y a 3 semaines, son administration a mis fin au statut de protection temporaire pour les personnes originaires du Honduras et du Nicaragua. Et ça rend leur situation compliquée. Reportage Alice Campagnol.
À l'aéroport de San Pedro Sula, dans le nord du Honduras, un avion vient de se poser avec à son bord une dizaine de Honduriens expulsés des États-Unis. Ils sont reçus dans le centre d'accueil des migrants de retour de la Lima, situé en bord de piste. Le centre est dirigé par la sœur Idalina Borguignon.
Avec l'arrivée de Trump, le rêve américain, c'est fini. Ceux qui reviennent des États-Unis disent que là-bas, ce n'est plus la même chose. Être migrant là-bas, maintenant, c'est vivre dans la peur. Il faut sans cesse se cacher quand on sort de chez soi.
Alors le centre offre un petit moment de réconfort, d'abord avec un café et de quoi manger, puis vient un circuit bien huilé, visite médicale, psychologue, service de migration, émission de l'extrait de naissance et du casier judiciaire, remise de bons d'alimentation. Sergio vient de terminer tout le processus. Il rentre après 28 ans aux États-Unis.
Moi, j'ai toujours eu du travail. Et quand on travaille, on peut survivre. Et même vivre très bien. Alors bon, on reste. Mais c'est vrai que j'ai toujours été illégal là-bas. Et maintenant, c'est dur aux États-Unis. Les gens sont terrorisés.
C'est le nouveau profil des expulsés, des personnes qui avaient fait leur vie chez l'oncle Sam, qui doivent tout reconstruire au Honduras, un pays que parfois les plus jeunes connaissent à peine. Alison Novo, psychologue.
Ici, on reçoit beaucoup d'enfants qui ne comprennent pas bien l'espagnol. Ils parlent bien mieux l'anglais et en espagnol, ils cherchent vraiment leurs mots. Et pas mal de gens nous disent « je n'ai plus rien ici, je n'ai même pas de famille, je ne sais pas ce que je fais ici ».
Ils sont 13 400 à être de retour depuis le début de l'année. La fin du statut de protection temporaire dont bénéficiaient 72 000 Honduriens entrera en vigueur le 6 septembre prochain.
C'était le reportage d'Alice Campagnol.
Le 12-30, Pauline Rapa.
Et pour terminer ce journal, une musique délicate et un peu mélancolique.
Demain, quitter la ville.
Cette voix gracieuse, c'est la vôtre, Laura Cahen, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes musicienne française et votre troisième album, De l'autre côté, est paru au mois de janvier dernier au label Pias. Un album en 10 titres qui parle d'amour, de monde qui se termine, de départ. Et notamment donc ce titre qu'on entend, Quitter la ville. Vous dites traverser la forêt pour aller de l'autre côté. C'est quoi cet autre côté ?
C'est toute la question, c'est d'ailleurs donc le titre de l'album comme vous l'aviez dit et voilà, j'ai imaginé une histoire d'amour entre deux femmes où elles tombent amoureuses au premier regard et c'est vraiment très intense et fort et elles n'ont pas le choix que de vivre cet amour, seulement elles vivent dans un monde où c'est impossible, où en plus tout brûle dans tous les sens à cause de guerres, de crises écologiques, de bombes, de gouvernements de plus en plus radicaux au pouvoir un peu partout et bref, leur amour n'est pas autorisé, donc elles doivent fuir, essayer de trouver un endroit pour vivre où voilà, elles pourraient seulement s'aimer et profiter de la vie, si on peut dire, mais de manière peut-être plus raisonnable. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que je dis dans le premier titre, vous pouvez bien construire des fusées. Enfin, j'essaye d'appeler à, je sais pas, la décroissance ou quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, on leur a dit que peut-être il fallait qu'elles cherchent cet endroit et que ça se trouvait probablement de l'autre côté.
Et est-ce que ce titre, Laura Cahen, il était un peu prémonitoire ?
Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde ?
Oui.
Probablement, je ne sais pas. Je pense que tout ce qui arrive aujourd'hui se dessine depuis plusieurs années et que moi, je suis un peu une éponge qui récolte ce qui se passe dans le monde. Et oui, c'est vrai que je pensais en tout cas écrire une dystopie au moment où j'étais en train de l'écrire. Et puis finalement, on se rapproche de plus en plus de ça et c'est terrible.
Et Laura Cahen, vous l'évoquiez tout à l'heure, les paroles de ce titre, Quitter la ville, elles sont assez sombres, ces paroles. Vous dites, il faut s'habiller de noir, les avions vont arriver, les arbres tombent, il faut faire vite. Et pourtant, la musique, elle est lumineuse. Vous aviez envie de créer un décalage, une dissonance ?
Oui, mais parce que c'est aussi ce qu'on traverse tous. Enfin, moi, c'est ce que j'essaye de faire dans la vie. Je sais qu'on vit des temps très sombres, très difficiles, et en même temps, j'ai toujours ce désir de faire de la musique, et d'aimer, de profiter de la vie aussi. Et je pense que c'est ce décalage-là. Je me dis que même dans le chaos le plus total peut toujours naître du désir, et c'est un peu ce que dit la chanson. Elle dit « Je ne fais que te désirer, je ne devrais pas y penser ». Enfin, voilà.
Et je vous propose qu'on écoute un autre extrait.
Je
Laura Cahen, c'est un extrait de la chanson Les astres, tu sais lire mon visage. Elle parle de ça, cette chanson, des rares personnes autour de nous qui savent observer, reconnaître et voir au-delà des masques.
Oui, exactement, ça parle d'un moment assez magique où il y a une connexion immédiate entre deux personnes et tout de suite elles se reconnaissent, elles se sont jamais vues, mais c'est comme si elles se connaissaient peut-être d'une vie antérieure ou je ne sais quoi. En tout cas, elles ont envie de partir ensemble.
Et c'est précieux ce genre de personnes parce que rare.
Ben oui, c'est ça, c'est rare. Et puis c'est vrai qu'on est dans une société où on n'a plus trop le temps de creuser, j'ai l'impression. On va très vite et le fait d'aller voir ce qu'il y a derrière les masques de société de chaque personne, c'est assez difficile et précieux quand on arrive à démasquer les gens, je pense.
On a tendance à trop juger vite les personnes qu'on rencontre.
Oui, je pense, oui.
Et dans cette chanson « Les astres », Laura Cahen, vous dites aussi « Toutes les deux, on doit se sauver ». Ça veut dire se sauver, partir, ou bien est-ce que c'est se sauver l'une l'autre ?
Ben, je suis très heureuse que vous ayez relevé cette ambiguïté, enfin ce double sens, parce que je voulais absolument dire les deux, se sauver et se sauver.
Et est-ce que cet album, Laura Cahen, il dit l'impuissance face aux crises, aux guerres, aux dérèglements climatiques, et que la chose finalement qui nous reste, c'est de passer du temps avec les gens qu'on aime ?
Oui, je pense que c'est complètement ça, et puis ça pose aussi la question de... Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, à notre échelle et en temps de crise? Est-ce qu'il faut rester, se battre à tout prix? Ou alors est-ce qu'il faut sauver sa peau, partir, essayer de construire quelque chose d'autre ailleurs? Même si tout va mal, on peut trouver des belles choses encore dans la vie, dans la nature, dans l'amour. Pas forcément d'amoureux, mais d'amitié aussi, d'amour familial. Je pense que c'est ça qui nous maintient... envie qui nous maintient aussi en lien les uns avec les autres. Et ce qui est difficile aujourd'hui avec tous ces écrans partout, je trouve que ça brise quelque part le lien un peu primitif qu'on peut avoir les uns avec les autres.
Et effectivement, il y a beaucoup d'écrans dans nos vies. Vous faites comment, vous, alors, pour essayer d'aller au-delà des écrans et puis fortifier cet amour, pas seulement romantique ?
Ah ben, j'ai pas de solution magique, mais je pense que la musique, c'est un médium précieux pour faire que les gens se rencontrent et passent du temps ensemble. Notamment, je pense aux concerts, c'est un moment spécial où on peut reconnecter les âmes les unes aux autres.
Je vous propose qu'on écoute encore un peu de musique.
Souviens-toi du jour, souviens-toi toujours.
Laura Cahen, on entend la chanson « Danse » en duo avec Juliette Armanet. C'est tiré du mini-album « Des filles », des duos que vous avez fait avec des artistes femmes. Est-ce que c'est parce que vous avez eu du mal, quand vous étiez petite, à trouver des modèles dans le monde de la musique ?
C'est vrai que j'ai eu du mal à trouver des modèles dans le monde de la musique, mais là, j'avais surtout envie de... à nouveau de créer du lien, parce qu'en fait on est toutes et tous assez seuls dans notre maison ou appart ou chambre pour créer de la musique, et on se rencontre pas vraiment. Même au concert, on fait notre concert chacun de notre côté, mais on se rencontre pas vraiment, et j'avais assez envie d'être à l'origine d'un mouvement, n'importe quoi, d'être à l'origine en tout cas d'un moment où on serait ensemble. Et donc j'ai fait tous ces petits duos, qui, effectivement ce disque qui s'appelle Des filles, et puis là j'avais envie d'aller plus loin et de me dire c'est quoi vraiment ce qu'on appelle la sororité. Il faudrait que je partage complètement des chansons avec d'autres femmes, ça serait beau, et c'est ce que j'ai fait.
C'était Laura Cahen, entretien diffusé une première fois en avril. Son album De l'autre côté est paru chez Piass. Météo, pas mal de soleil du Léman au Valais, en partie ensoleillé sur le plateau. Plus de nuages le long du Jura et des Préalpes. Des averses isolées sont possibles en seconde partie de journée. Il fait jusqu'à 23 degrés en plaine.
La vie à peu près, Florence Grivel.
Dire l'intime, aussi bien que le collectif, l'universel, l'écrivaine française Brigitte Giraud est dans La vie à peu près de cette semaine. Soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Vous n'avez rien vu venir, vous ne l'aimez plus, vous demandez à vérifier, il s'agit d'être sûr, mais vous doutez. En fait, vous l'aimez et ne l'aimez pas à la fois, il faudrait vous décider, ça devient agaçant. Vous l'aimez, pensez-vous, mais ne supportez pas quand il traverse le salon au peignoir. Quand il s'installe devant la télévision dans cette tenue, les cheveux encore mouillés, plaqués en arrière. Lui, sans doute, vous l'aimez, mais c'est la même scène répétée chaque jour qui vous indispose. Extrait du livre de nouvelles « L'amour est très surestimé » pour lequel elle a reçu le Goncourt de la Nouvelle en 2007. Une écriture, celle de Brigitte Giraud, dans laquelle on retrouve un certain nombre de thématiques. Les silences familiaux, la perte et le deuil, des obsessions, dans un style sobre et retenu. Mais pour l'heure, on ouvre ce chapitre par « À présent », le livre qu'elle écrit un peu plus d'un an après la mort accidentelle en 1999 de l'amour de sa vie, Claude Giraud. Une écriture du huis clos, ainsi se nomme ce troisième épisode au bon soin de Sylvie Tanette.
Bonjour Brigitte Giraud.
Bonjour.
Je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième rencontre. Alors, hier on a parlé de vos débuts dans l'écriture et de votre premier roman. J'aimerais aujourd'hui qu'on parle de votre écriture et des thématiques récurrentes qu'on trouve dans votre travail. Mais il y a quand même un événement sur lequel on va s'arrêter, parce que c'est un événement qui bouscule et votre vie de jeune femme et votre vie de jeune écrivaine, il me semble. C'est le décès de Claude, votre compagnon. C'est un peu après le premier roman, il me semble.
J'ai publié mon premier roman en 1997. Mon deuxième roman est paru en 1999, Nico, et c'est l'année où Claude est mort dans un accident de moto. Voilà, donc j'avais déjà écrit deux romans au moment de l'accident.
Et ça va donner lieu à un roman qui s'appelle « À présent » où vous racontez le moment où vous apprenez le décès.
Ouais, ça donne lieu en effet à présent, qui est un récit en fait, parce que les deux premiers livres étaient vraiment des romans. Et là, c'est clairement un récit que j'écris à peu près un an et demi après l'accident, au jeu, qui est un livre assez bref. L'accident a lieu le 22 juin 1999, le jour où où j'ai quitté Lyon pour aller chez mon éditeur à Paris, qui était Stock à l'époque, au moment où je suis en train de faire le service de presse de Nico, qui doit paraître à la rentrée. Je dors à Paris le soir chez une amie, et quand je rentre le lendemain, j'apprends que l'accident a eu lieu. Et c'est vrai qu'à présent, alors à ce moment-là, je pense profondément que je ne serai plus capable ni d'écrire, ni de vivre, ni de rien, évidemment. Et donc, il faut quasiment 2 ans pour que l'écriture soit à nouveau possible. Et ce qui m'autorise finalement à poser la première phrase de « À présent », je m'adosse finalement à une phrase de Camus, à la phrase de Camus dans « L'étranger », où son livre commence par « Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier ». Et j'entre dans l'écriture d'à présent en écrivant « Ce soir, Claude est mort ». Et ça m'aide à oser, j'allais dire, fondre la surface de la mer. C'est cette image qui me vient. Et ensuite, c'est un récit qui est que j'appelle aujourd'hui un récit de la sidération, qui dit le moment où j'apprends, qui dit les circonstances de ce qui s'est passé, qui pose tout un tas de questions. C'est vraiment un livre qui va très 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 vite. Le premier titre de ce livre, qui au départ ne s'appelait pas « À présent », le titre c'était « Fracas ». Parce que c'est véritablement un fracas, c'est-à-dire quelque chose qui surgit d'une violence inouïe dans mon existence. Et la raison clinique de la mort, c'est « Fracas du côté droit ». Et ce mot fracas était un mot qui pour moi correspondait vraiment à ce qui s'est passé. Et on en a beaucoup parlé avec mon éditeur qui était Jean-Marc Roberts et qui hélas est mort depuis, ça fait pile 10 ans, 11 ans. Et Jean-Marc Roberts proposait peut-être qu'on trouve un autre titre. Pour lui, dans Fracas, il y avait quelque chose qui pouvait faire penser à un récit d'ordre poétique. Un mot comme ça, voilà, et donc à présent est plutôt un titre qu'on a cherché ensemble, qu'on a trouvé ensemble, et qui est un titre qui parle davantage du temps, c'est-à-dire qu'à présent, évidemment, ce moment où la vie va basculer complètement vers autre chose, et dans le mot présent, il y a aussi le présent. Nous sommes dans un présent qui est différent, et je me suis rendu compte également que le mot présent, c'est aussi le mot cadeau. Faire un présent à quelqu'un. Or, il ne s'agissait pas de faire un cadeau à qui que ce soit, mais en tout cas de donner quelque chose à la seule chose possible que je pouvais donner, je ne sais pas à qui d'ailleurs, était ce livre-là, à ce moment-là, qui est un livre qui va très vite et qui est vraiment un livre de la, ouais, de la déflagration.
Il y a un livre qui a beaucoup de pudeur aussi à présent, mais donc c'est la première fois que vous écrivez un récit, vous écrivez en disant « je ». Je ne sais pas si on peut parler d'un tel événement comme ça, mais est-ce que vous avez l'impression, Brigitte Giraud, que du coup, ça a changé votre travail d'écrivaine ?
Alors, peut-être que ce livre m'a obligée à encore une plus grande justesse, m'a obligée à me méfier de tout ce que j'appelle à un moment, dans à présent. Je sais qu'à un moment, je parle de ça, tout ce qui est... entre guillemets, la sauce entre les mots. C'est-à-dire tout ce qui est là pour faire joli, tout ce qui est là pour amortir, tout ce qui est là pour enjoliver, pour faire croire que ça fait pas mal, ou pour faire croire qu'il y a des happy ends, ou pour faire croire que malgré tout, il y a ce qu'on appelle la résilience, ce mot qui a été tellement, qui est devenu insupportable parce qu'on l'a tellement employé, suremployé, et tous ces manuels et tous ces discours qui nous font croire aussi qu'on peut faire ce qu'on appelle faire son deuil, autre expression totalement sidérante, en un an ou deux ans, qui a différentes étapes, la colère, le déni, etc., etc., jusqu'à l'acceptation. Enfin, l'acceptation, ben non, on accepte des choses qu'on n'accepte jamais. On fait croire qu'on les accepte parce que sinon, il faut bien se réconcilier un peu avec soi-même pour survivre. À défaut de vivre ou de recommencer à vivre, mais ce livre, je me vois au moment où je l'écris, c'était plutôt le soir, quand mon petit garçon était, mon petit garçon avait 8 ans quand il était couché, je me vois à l'épreuve de la vérité en fait. Mais dans mes deux précédents romans également, La chambre des parents et Nico, c'était deux romans pour lesquels je ne m'autorisais pas de alors m'autoriser, hein, m'autoriser, moteur, moto, enfin bon, je ne m'autorisais pas à édulcorer ou à être un peu imprécise. Ou j'aime bien les choses un peu très tranchantes, très directes, très honnêtes. Sinon, c'est pas la peine d'écrire. Si on va pas droit au but. Mais aller droit au but, ça veut pas dire des choses qui seraient impudiques ou qui seraient inconvenantes ou qui seraient un quelconque déballage. Surtout pas, surtout pas. Il faut tenir encore une fois sur un fil. Comme j'en parlais lors d'un précédent entretien, le fait de marcher sur une poutre ou de marcher sur un fil d'un bout à l'autre du précipice sans tomber, ça veut dire qu'il faut avancer prudemment, mais en faisant très peu de concessions à la réalité, ce que j'appelle le réel. Et l'écrivain, il est confronté à ça. Et moi, quand je lis de la littérature, et Dieu sait que je lis énormément de littérature et je suis fascinée par ce qu'écrivent les autres, j'ai besoin qu'on me raconte pas d'histoire, c'est-à-dire j'ai besoin de sentir que l'épreuve de vérité est tranchante, sinon je me sens pas concernée.
Oui, mais comment vous travaillez ça, Brigitte Giraud ? Parce que vous avez dit aussi dans une de nos précédentes rencontres que vous partez du concret. Et c'est vrai qu'on est toujours dans des petites choses de la vie quotidienne, et en même temps, dans chacun de vos livres, je crois, il y a toujours la perte, il y a toujours un drame. On a parlé du premier roman qui parlait d'un garçon qui a tué son père, mais je me souviens d'une année étrangère. En 2009, c'est juste une étudiante qui part en Allemagne dans une famille, mais on se rend compte, elle a vécu un drame avant de partir. Elle a, on va pas dire quoi, ce serait dommage, mais voilà, elle a quelque chose de... Voilà, il y a un livre sur des gens qui ont un petit enfant malade. Il y a toujours quelque chose de dramatique, mais en même temps, vous vous en tenez à la vie quotidienne.
Oui, parce que je pense, en écrivant à présent, je me suis rendu compte que en fait, on ne peut pas écrire autour de la douleur. On peut pas dire que ça fait mal, c'est terrifiant, c'est impossible. Évidemment que ça fait tellement mal que c'est indicible. C'est indicible. Et donc, ce qui moi m'intéresse dans l'écriture, c'est de parler de choses extrêmement précises du quotidien, de dire par exemple que il est impossible de se mettre à table avec son petit garçon pour prendre un repas et de mettre deux assiettes à table. Parce qu'il est impossible de ne pas mettre une troisième assiette, parce qu'il est impossible de préparer un véritable repas, que par moment, la seule chose qu'il est possible de faire, c'est de manger debout en 5 minutes, et qu'il n'est plus possible de dormir dans sa chambre, parce que dans sa chambre, il y aurait des fantômes, et qu'on peut dormir sur un matelas déplacé au fond d'un couloir, ou que... Voilà, c'est des choses toutes simples de la vie quotidienne qui peuvent dire le comble de l'angoisse, ou le comble de l'impossibilité de rentrer dans une maison qui n'est plus habitée par celui qui est censé vous attendre. Donc c'est plus facile pour moi de parler d'une maison qu'il est impossible de rénover, puisque l'accident a lieu à un moment où on arrive dans une maison à rénover, donc dans un chantier absolu. Et moi je peux dire ce que c'est, en écrivant, ce que c'est que de péter des cloisons, d'arracher le lierre dans le jardin, de balancer des graviers dans une benne, avec toute la violence qui va avec. Comme Iggy Pop compose le morceau Search and Destroy, ça oui, ça c'est possible de le dire. Mais c'est pas possible de dire la façon dont le corps entier est meurtri par une béance qui vous dévore. Ou peut-être que certains écrivains y arrivent, mais avec certains éléments de la vie quotidienne. Parce qu'à partir du moment où ce type d'événement fait irruption dans votre quotidien, tout devient folie, tout est dysfonctionnel. On passe dans une dimension qui est une dimension de l'ordre de la folie. C'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes amené, par exemple, à aller à la morgue de l'hôpital, voir l'homme qui a été l'homme de votre vie, et on apprend qu'il faut dire le corps. Est-ce que vous voulez voir le corps ? Folie. Tout à coup, la personne n'a plus d'identité, n'a plus de présence, à présent. Et donc, quand tout le monde parle de lui, va dire le corps. On passe dans une dimension qui est totalement dingue. Il faut être là. On ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment se tenir. Est-ce qu'on se met à droite, est-ce qu'on se met à gauche, est-ce qu'on le touche, est-ce qu'on le prend dans ses bras, qu'est-ce qu'on fait, tout en sachant que rien ne sert à rien. Il faut à un moment organiser ce qu'on appelle les obsèques. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est de cela dont je parle dans la prison? Est-ce qu'on va voir qui on va voir? Est-ce qu'on va voir? Parce qu'on n'a pas le temps, on ne sait pas faire, on n'a jamais fait ça, on n'a pas fait de répétition, on est confronté à un truc de dingue avec les amis. Et est-ce qu'on va voir un curé? Est-ce qu'on ne va pas voir un curé? Est-ce qu'il y a, en 1999, les cérémonies laïques étaient beaucoup moins développées qu'aujourd'hui? Et voilà, on se pose la question de la musique. Et est-ce qu'on met cette musique rock qu'il écoutait, est-ce que ça va pas être totalement fou? Non, on va plutôt ne pas mettre de musique, mais finalement ça change rien, de toute façon on a déjà tout perdu, donc qu'est-ce que c'est que ce cinéma d'une cérémonie? On fait ça pour qui? On fait ça comment? Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on prend la parole? On fait ça devant son propre enfant, devant la famille de son amoureux, on est perdu. Et il faut improviser. Et ce que je raconte dans À présent, c'est comment on improvise dans un truc qui est un délire généralisé. Et on fait semblant de tenir parce que on est obligé de tenir, parce qu'on n'a pas encore, l'esprit et le corps n'ont pas encore tout à fait assimilé l'effondrement. Ça veut dire que l'écriture va être l'endroit où on peut retrouver du sens et où on peut à nouveau reprendre un tout petit peu de maîtrise. Parce que l'expérience du deuil, de cette expérience totalement, totalement d'une violence inouïe, fait que vous êtes dépossédé de vous-même et que quelque chose a pris le pouvoir sur vous. Et l'écriture, qui arrive 18 mois, 2 ans après, est le premier endroit, le premier moment où le processus commence un tout petit peu à s'inverser. Et la seule chose que vous pouvez maîtriser, puisque vous n'avez rien maîtrisé de tout ce qui s'est passé, c'est les mots que vous allez choisir pour mettre ces mots ensemble et pour donner enfin votre version des choses. Parce qu'il a fallu lutter contre les versions de le prêtre à sa version, le chirurgien à sa version, la famille à sa version, la famille de l'autre à sa version. Tout le monde raconte quelque chose qui est un délire absolu. Et 2 ans après, peut-être que vous pouvez vous réapproprier votre propre histoire. Et l'écriture est le seul endroit qui va vous permettre de reprendre possession un tout petit peu de vous-même, et c'est énorme.
Et après, comment on repasse au roman, après cette expérience-là ?
Alors, quand à présent paraît, je dis à mon éditeur, je dis à Jean-Marc Roberts, il paraît en septembre 2001, à la rentrée littéraire de 2001, et je lui dis que ce livre, je ne pourrais pas l'accompagner, je ne l'accompagnerai pas. Donc j'ai fait aucune rencontre, ni en librairie, ni dans des festivals, ni... il était évident que j'allais pas parler de à présent. Aujourd'hui, je peux en parler. Et après, je reste sans pouvoir écrire jusqu'en 2003, puisque le livre suivant, qui s'appelle Marée Noire, paraît en 2004. Marée Noire, c'est un roman. Là, on n'est plus dans le récit, on est dans un roman, mais qui met en scène une question purement autobiographique, qui est comment est-ce qu'on revient peut-être dans un lien à la vie et à l'amour, en tout cas à la rencontre, comment il est possible de rencontrer une autre personne avec qui on va vivre ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle, ce que la société appelle les familles recomposées. C'est-à-dire, j'ai inversé totalement les rôles, donc je ne parle pas de moi directement, c'est une transposition comme la plupart de mes romans, je crois que tous les romanciers sont des champions de la transposition. Donc je mets en scène, en fait, un homme avec ses... avec son fils et une femme avec ses deux filles. L'homme a perdu sa femme et la femme est séparée. Et je les fais vivre ensemble, un premier été ensemble. Et là, ce qui m'a intéressé, c'était de voir quel était le poids des absents. J'en parle pas très bien, mais le lien entre la véritable présence et la véritable absence est quelque chose qui me fait beaucoup écrire. Parfois, les absents sont plus présents que les présents. C'est-à-dire que les gens qui sont près de vous... voilà. Et ça, c'est un ressort d'écriture tout à fait intéressant. Voilà. Donc, je reviens à l'écriture en transposant tous les romans qui vont venir après, tous, en fait, vont être une transposition de questionnements ou de sensations, questionnements intérieurs qui sont réels, qui sont indispensables. Cette jeune fille qui part comme jeune fille au pair en Allemagne, donc le livre qui s'appelle Une année étrangère, que je publie en 2009. Cette jeune fille, il se trouve qu'elle est en deuil, il s'est passé quelque chose de dramatique dans sa famille. Et c'est vraiment l'endroit où je peux aller plus loin dans l'épreuve qui essaye de dire ce qu'est le deuil, ce qu'est l'absence, ce qu'est cette déflagration qui va se décliner sur des années, des années, des années, qui va se transformer. Et cette jeune fille va réussir à se réinventer. Elle peut se réinventer parce qu'elle est dans une langue étrangère. Et ça, c'est une thématique qui revient souvent chez moi. Pour survivre au deuil, il faut accomplir une métamorphose. Et c'est vrai que l'épreuve de la langue étrangère, il se trouve que j'ai vécu en Allemagne, dans une famille où je me suis réinventée dans un autre contexte, Et la langue étrangère est vraiment l'endroit où c'est magnifique, parce qu'on devient anonyme, personne ne sait qui vous êtes, et dans une autre langue, on a une autre personne.
Il y a une thématique aussi qui revient, il me semble, souvent dans vos romans, Brigitte Giraud, c'est la thématique du genre et le questionnement sur le genre.
Alors, ce qui revient, en effet, c'est peut-être plus qu'un questionnement sur le genre, c'est plutôt ce que j'appellerais la fragilité chez les garçons. C'est peut-être plus ça. C'est plutôt mon interrogation sur la confrontation au masculin. Qu'est-ce que le masculin? Et qu'est-ce que le masculin dans sa fragilité, voire dans son impossible virilité? Ce qui me trouble chez les garçons, y compris les forces de la nature, c'est cette part plus fragile, cette part non guerrière, non belliqueuse. Et je pense que ça me renvoie peut-être, je n'en sais rien, mais à mon père qui a choisi pendant la guerre d'Algérie de ne pas tenir une arme et de demander de faire à la place une formation d'infirmier. Et c'est vrai que l'infirmier, c'est quand même celui qui va prendre soin, celui qui répare, celui qui console, celui qui est capable de prendre dans ses bras d'autres corps, et en l'occurrence des corps de garçons. Et on pourrait se dire qu'il y a d'un côté les guerriers, c'est-à-dire les hommes qui tiennent une arme et qui vont éventuellement s'en servir et faire usage de leur violence, et subir aussi de la violence. Puis peut-être de l'autre côté, des garçons qui... serait davantage à un autre endroit. Et une vraie question est de savoir qu'est-ce qu'il y a de plus viril. Est-ce que c'est celui qui va faire usage de son arme ou celui qui va prendre entre ses bras, faire un pansement et consoler quelqu'un qui souffre? Je trouve que c'est une question qui me... Là, je l'explicite, je ne l'ai jamais explicité comme ça, mais je pense qu'elle traverse quasiment tous mes livres. Parce que je suis bouleversée, notamment par ces jeunes garçons, par ces adolescents dont je sens qu'ils sont fragiles, et j'ai peur pour eux. J'ai peur pour les adolescents en général, et j'ai peur pour ces jeunes gens dont je me dis qu'ils risquent d'être la proie de garçons plus violents, plus sûrs d'eux, et d'ailleurs moins sûrs d'eux. Plus on est violent, et à mon avis, moins on est sûr de soi. Et j'ai toujours peur... Je n'arrive pas à accepter ce qui s'appelle la violence, en fait.
Il y a un autre livre où vous avez abordé les thématiques et du manque et de la perte, mais dans un autre contexte. C'est « L'amour est très surestimé » en 2007. C'est un recueil de nouvelles qui vous a valu le Goncourt de la nouvelle. Là, c'est des textes courts où c'est chaque fois un amour perdu ou un amour disparu, enfin pour différentes raisons, mais comme si vous aviez examiné toutes les façons qu'on a de perdre un amour, d'une certaine manière.
C'est ça, oui, c'est un livre qui parle de la fin de l'amour, à la fois dans le cas de la séparation, et aussi dans le cas où l'un des deux disparaît, meurt. C'est un recueil dans lequel il y a 11 nouvelles, que j'ai voulu assez, là aussi, assez tranchante, assez brève, assez cruelle. Là aussi, à l'épreuve de la vérité. J'ai beaucoup aimé écrire ce recueil de nouvelles, où je regarde, en fait, le couple sous ses différentes facettes. Par exemple, il y a un des textes qui s'appelle « Les objets », qui est une épreuve pour moi de la séparation du couple extrêmement importante, qui est l'une des dernières épreuves, qui est le moment où l'un des deux revient sur les lieux pour récupérer le fameux partage des objets. Qu'est-ce que tu prends, etc. Et là aussi, on est dans quelque chose d'extrêmement concret. Comme on le disait tout à l'heure, le rapport concret au monde, qu'est-ce que ça veut dire que de revenir dans un appartement et de dire « j'aimerais prendre le miroir » ou « je suis déjà partie avec ma guitare ». Et là, c'est un homme qui revient dans l'appartement et la femme est là, elle est terrée dans sa cuisine. J'ai voulu, par rapport au cliché de la femme dans sa cuisine, j'ai fait exprès, c'est le seul endroit où elle peut s'autoriser à être et elle entend. Tout se passe par le fait qu'elle entend l'homme qui marche sur le parquet et qui va aller dans différentes pièces pour savoir ce qu'il va prendre. Et j'ai pu, je l'ai vécu et je l'ai beaucoup observé autour de moi, cette dernière épreuve qui est l'arrachement par les objets, est peut-être l'une des dernières phases de la séparation, c'est-à-dire le moment où le retour en arrière n'est plus possible, parce que c'est comme la... D'ailleurs, il y a les mots qui disent séparation de corps, séparation de biens, enfin, il y a la langue de la justice utilise aussi ces mots-là. Et puis, évidemment, il y a aussi le rapport aux enfants. Voilà, qui va avoir la garde des enfants et comment la garde va se partager. Il y a une nouvelle qui s'appelle « Nous allons dire aux enfants ». Voilà, la première phrase, c'est ça, « Nous allons dire aux enfants que leur vie va changer », avec des mots trompeurs et lâches, etc., etc. Et il y a beaucoup de cruauté dans ce que nous sommes obligés de vivre, nous autres êtres humains, et ce qu'on est obligé de faire vivre à nos enfants aussi, alors qu'on ne l'a pas choisi, qu'on pensait que l'histoire serait autrement plus belle.
Bien sûr, mais le fait d'écrire des textes courts, Brigitte Giraud, ça change quoi, concrètement ?
En fait, ça change tout parce que on est plus à l'épreuve de la tension, de la vitesse. Moi, je suis plus une, pour revenir sur le sport que j'ai beaucoup pratiqué, je serais plus une coureuse de vitesse que de fond. Le fond, il faut un souffle long, il faut un souffle qui se déploie, qui est vertigineux. La construction d'un roman, je ne sais pas si aujourd'hui je serais capable d'écrire un roman. Alors que la vitesse, on peut tenir une nouvelle sur une journée, sur deux journées, sur trois journées, et on peut être extrêmement vif et cruel. J'aime bien le rapport à la cruauté nécessaire, mais pas une cruauté... pas une cruauté qui serait complaisante et qui serait inventée, hein, mais la cruauté qui est à l'œuvre dans nos vies. Et ce que j'aime bien dans la nouvelle, c'est le moment de la bascule. Et ça peut basculer très vite. Et dans toute nouvelle, il y a le moment qui bascule et qui fait qu'il va falloir se raccrocher et... Bon.
Non, mais pourtant, vous n'en avez pas tant écrit que ça. C'est le seul recueil de nouvelles que vous ayez publié, vous pensez en écrire d'autres ?
Alors, j'en ai écrit pas mal d'autres pour des différentes revues.
Oui, voilà, pas un recueil comme ça, non, autour d'une thématique. Ouais.
Non, mais en fait, L'amour est très surestimé, c'est écrit parce que j'avais, à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais donné 1, 2, 3, 4 textes dans des journaux, dans des revues. Et je me suis dit, mais tiens, ce que tu écris en ce moment, c'est toujours autour de cette fracture amoureuse. Et quand j'en ai eu pris conscience, je me suis dit que j'allais peut-être proposer un recueil de nouvelles. Et là, en ce moment, je suis en train d'y penser aussi autour de l'épreuve du quotidien et par rapport à l'époque. Je trouve qu'en ce moment, on est dans un moment, enfin, c'est pas, je trouve, c'est qu'en ce moment, nous sommes dans un moment de rupture absolue, dans un moment où la vitesse nous prend de court, où tout va tellement vite que notre cerveau a du mal et notre zone émotionnelle a du mal à suivre. Et l'écriture de romans en ce moment me paraît pas tellement adaptée au monde parce que le temps long du roman. Pendant l'écriture du roman, il peut se passer tellement de choses et tellement de chamboulements que j'ai l'impression que tout est dérisoire. Et peut-être que seule la nouvelle, en ce moment, peut choper des moments d'intensité, d'incandescence de ce qui est à l'œuvre dans le monde.
Eh bien, on se réjouit de vous lire. Brigitte Giraud, merci pour cette rencontre. Demain, on parlera d'un autre aspect de votre personnalité, c'est le sens du collectif. Alors, cette fois-ci, vous avez choisi de nous faire écouter...
Alors cette fois-ci, j'ai choisi de nous faire écouter cet hymne de Bronski Beat qui s'appelle Small Town Boy. We'll be right back.
Hans Kibitz, Molton Boy, véritable hymne qu'aime particulièrement Brigitte Giraud, qui cette semaine est au micro de Sylvie Tanet. Demain, nous parlerons collectif. La vie à peu près, c'est une coproduction Daniel Éveillé et Florence Grivel, assistée d'Audrey Zanot, réalisée par Sandro Lichy. Bonne suite de journée sur RTS Espace 2. À demain. Il y a